Je vais vous avouer que j'ai eu des problèmes et que pour les résoudre, j'ai bien voulu aller voir quelqu'un qui devait m'aider. Et son premier réflexe m'a surpris, c'est qu'il m'a dit « on va travailler sur un verset biblique ». Moi, je veux bien, mais je trouve quand même que j'aurais préféré qu'il s'y prenne autrement. Parce qu'un verset biblique, d'abord, c'est pas toujours compréhensible. Il faut le relire une ou deux fois, trois fois, parfois à haute voix pour mieux comprendre ce que ça veut dire, parce que le style, il n'est pas très abordé, et je voyais vraiment pas quel est le rapport il y avait entre la Bible et moi.
Et ça vous a choqué?
Eh ben oui, ça m'a surpris, disons.
Ça vous a surpris?
Oui.
Et il a fait ça tout de suite, ou il vous a quand même dit bonjour avant, je suppose?
Ah oui, quand même, hein? Oui, bien sûr. Il ne m'a pas donné un ticket à l'entrée, disait, dans la salle d'attente, disait tel verset. D'accord, bien sûr, il a été correct. Il a été poli, il m'a demandé ce que je voulais, mais apparemment pour lui, toc, c'était presque mécanique, c'était désagréable. Il pouvait presque consulter une espèce de tableau à deux entrées. Ah, dans votre cas, c'était le verset, toc, allez-y.
Oui, un peu comme un remède.
Oui. Ah, oui.
Alors écoutez, je vais vous dire comment est-ce que je fais, et puis vous peut-être ça vous suggérera des choses à préciser. Moi, j'ai pas de case. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand on veut progresser avec le Seigneur, il faut être dans cette liberté avec l'Esprit de Dieu. Et quelquefois, on pense justement à des versets particuliers, et c'est peut-être justement ceux-là qui vont nous faire du bien. Alors, je me suis pas dit, si quelqu'un est seul, je vais lui lire le verset « Aimez-vous les uns les autres ». Si quelqu'un est en colère, je vais lui lire le verset « Mettez-vous en colère et ne péchez pas », etc. Mais je pense que la Bible, la parole de Dieu, est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait réfléchir, qui est à la fois un peu un matériau, qui nous donne une compréhension pour une situation particulière, mais aussi qui nous donne une dynamique intérieure, une force, une capacité. Et donc, par exemple, j'ai bien compris pour moi, vous savez, avant j'étais opticien, hein, je parle de mon cas particulier.
Oui, je comprends. Oui.
Et avec ma femme, on avait commencé une association, donc justement appelée Espérance, et on tendait la main pour que les gens qui ont des difficultés nous appellent. Et alors, on avait à peu près un appel par jour, et comme j'étais opticien, responsable de magasin, c'était un peu lourd. Et je me posais la question, qu'est-ce que je dois faire? Et alors un jour, à l'église, il y a quelqu'un qui, tout à coup, ouvre sa Bible, et qui lit juste un verset, 2 Timothée 4, verset 18, et qui dit, « Le Seigneur me délivrera de toute chose. » Et puis il se rassied. Il ne fait pas de commentaire, rien. Eh bien, c'est ce verset biblique qui m'a touché. C'est ce verset biblique qui m'a fait comprendre que moi, j'avais à avancer avec le Seigneur, mais que le Seigneur me délivrerait là où il faudrait que je sois délivré, quand ça m'arriverait. Ce qui fait que ça m'a permis de passer ce cap de savoir si j'avais à quitter mon travail.
Oui, vous organiser autrement, oui. Voilà. Mais en fait, c'est quand même curieux, parce que c'était presque une loterie. Vous savez, parfois, à la fois, on vous proposait contre un franc, un petit papier roulé. Non, papier roulé. Et puis vous le dérouliez, vous aviez une pensée comme ça. Faites attention sur la route, ne buvez pas trop, et ainsi de suite. Là, moi, ça ne va pas me convaincre, là. L'impression que c'est presque de la superstition, un truc de bonne femme, vous voyez, presque de carte ancienne.
Mais Dieu est notre Père.
Oui.
Dieu s'occupe de nous.
Oui.
Dieu prend soin de nous à chaque instant. Dieu veut nous conduire à chaque instant dans quelque chose qui va nous donner un cap suffisamment simple, suffisamment accessible, dans lequel on va pouvoir se réaliser et faire des choses qui nous feront du bien, qui seront gratifiantes. Et ce cap-là, eh bien, il y a une pensée qui va le définir. Et un verset biblique peut vraiment nous interpeller. De sorte que quand quelqu'un qui nous accompagne donne un verset biblique, en tout cas, ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. On va prendre maintenant un ou deux exemples
de
versets.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même une autre chose qu'il faut signaler, c'est qu'on peut ne pas comprendre. Si c'est comme un devoir du soir, où vous dites à quelqu'un, vous lirez tel chapitre ou tel verset, il peut très bien ne pas le comprendre aussi. Et être découragé, et dire, je me suis trompé, je ne suis pas allé sonner à la bonne porte.
Prenons un exemple.
Oui. Vous ne répondez pas là.
Je vais répondre avec un exemple.
D'accord.
Quelqu'un vient me voir et me dit, moi je suis timide. Alors, je lui fais un peu préciser sa timidité. Il me dit, ben, par exemple, il est hors de question pour moi que quand il y a un groupe, si j'ai quelqu'un à côté de moi, que je m'adresse à lui, que je m'intéresse à lui, que je lui pose des questions, et surtout, que je lui parle de moi. Dès que ça devient un peu trop intérieur, je me recroqueville, je me referme comme une huître. Alors, je vais lui dire, par exemple, je vais penser à ce verset de la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18, « L'amour parfait chasse la crainte. » Alors il va me dire tout de suite, « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à ce verset ? Est-ce que vous pensez que j'aime pas ?» Alors je vais lui dire, « Mais moi je pense que vous avez peur. » Oui, mais c'est dit, « L'amour parfait chasse la crainte. » Ou bannir la crainte, c'est pas la peur. Oui, mais je vais lui dire, dans le grec du Nouveau Testament, c'est phobos qui a donné phobie, et vous avez peur. Elle me dit, mais expliquez-moi pourquoi j'ai peur. Alors, je vais lui dire, mais c'est vous qui allez y réfléchir, moi je vais pas vous l'expliquer. Et comme je reçois les gens une heure par semaine, de semaine en semaine, il va dire, ah, il a dit que j'avais peur. Et alors, il va réfléchir sur la peur.
Sur sa peur.
Sur sa peur. Et il va se dire, tiens, alors, je lui dis que j'étais timide, il me fait travailler sur ce verset-là, et il me dit que j'ai peur avec les gens, et alors, il y a 7 jours, et donc, une semaine après, il vient et me dit, mais non, non, vous êtes trompé, moi, j'ai pas peur. Hein. Moi, je veux pas parler aux gens, c'est tout, mais j'ai pas peur. Alors, puisque je lui ai demandé de noter ses rencontres avec les gens, il les aura notées, et on va parler de ses rencontres avec les gens. Alors, je vais lui demander de me décrire les gens. Et il va me dire, cette personne-là, j'ai rien discerné de lui. Je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Et c'est quelqu'un qui s'est... Alors, je vais vous dire simplement son comportement. Il était un petit peu tourné vers moi. Et il m'a posé quelques questions, mais je ne lui ai pas répondu parce que ça ne le regarde pas.
Ah oui.
Voilà, ça ne le regarde pas. Alors, je lui dis, mais pourquoi vous dites que ça ne le regarde pas? Ah ben, parce que c'est des choses personnelles. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à vous? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lui dire? Parce que je ne veux pas rentrer en relation avec lui. Mais pourquoi vous ne voulez pas rentrer en relation avec lui? Et alors là, la personne arrive un petit peu... Elle est
acculée.
Elle est au pied du mur, en fait.
Au pied du mur, oui.
Et elle dit, mais je ne veux pas rentrer en relation avec lui parce que je ne veux pas qu'il me connaisse. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'il me connaisse? Parce que vous avez peur de lui. Et donc, je dirais que voilà comment ce verset biblique permet à quelqu'un de prendre conscience de son problème. Il a peur. Il a peur. Alors, on fait un travail sur les peurs, d'identification des peurs. Et alors, on va le voir avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne. Et quand les peurs sont bien identifiées, alors là, dans ce verset, on a deux choses. Hein, l'amour parfait... bannit ou chasse la peur ou la crainte. Et donc on se rend compte que c'est l'amour qui chasse. C'est l'amour qui manque. Et donc là, la personne peut se rendre compte qu'elle ne sait pas aimer. Et là, je vais dire par exemple à la personne, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner une définition de l'amour? Alors en général, les gens qui souffrent et qui viennent me voir sont très embarrassés, ils n'arrivent pas à donner une définition d'amour et je leur dis, mais voyez, c'est un peu comme tout, hein. Si vous ne savez pas comment faire du café, vous n'en ferez pas. Si vous ne savez pas comment faire une tarte aux pommes, eh bien vous n'en ferez pas. Si vous ne savez pas comment utiliser un ordinateur, vous ne l'utiliserez pas. Si vous ne savez pas comment conduire votre voiture, vous ne la conduirez pas non plus. Si vous ne savez pas comment aimer, vous n'aimerez pas.
Aimer.
Et donc, définir l'amour, c'est quelque chose de très important. Et donc, voilà, pour moi, aimer, c'est s'ouvrir à l'autre, l'accueillir, le connaître, s'intéresser à lui, se faire connaître à l'autre. Et c'est un projet finalement, c'est une action. C'est pas simplement
se découvrir. Réciproque aussi.
Voilà. Mais ce qui est réciproque ne dépend pas de nous. C'est-à-dire que si l'autre ne le fait pas, nous on l'aura mis en œuvre. On l'aura mis en œuvre. Et de ce fait, en s'ouvrant à l'autre, alors on en est gratifié parce qu'on ressent l'amour. Mais souvent les gens se coincent, ils sont dans une impasse parce qu'ils assimilent leur ressenti à l'égard de quelqu'un à l'amour qu'ils portent à quelqu'un. Mais c'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est s'ouvrir à quelqu'un. C'est pas le ressenti que j'ai à l'égard de quelqu'un. Et donc, là, on va travailler sur ce verset. L'amour complet, parfait, bannit la crainte ou chasse la crainte. Et de ce fait, on va pouvoir sortir de quelque chose.
Donc, en lisant un verset, on peut déboucher sur une conversion, sur une convalescence, disons.
Un changement intérieur.
Un changement intérieur et une conversion. Alors, en fait, quand même, il faut signaler que la Bible, à mon avis, est le plus grand livre d'amour.
Oui.
C'est là où l'amour vrai, beau, pur, immense, sans dimension, se trouve.
Et c'est pour ça qu'on aurait vraiment intérêt à avoir un programme de lecture sur l'année qui fait qu'on la lise entièrement une fois par an. Parce que c'est vrai que quand on va voir quelqu'un qu'on peut travailler sur un verset, ça nous fait du bien. Mais si on peut
ça peut déclencher.
C'est ça, ça peut déclencher. C'est ça. Mais si on fait journellement un travail d'écoute, de méditation, de malléabilité dans la main de Dieu avec ces versets qui nous interpellent, si on fait journellement ce travail de ce que j'appelle l'illumination de l'esprit, à un moment donné, se rendre compte que tel verset nous a interpellés. Il nous a fait du bien, il nous a marqué, il nous a...
Oui, alors moi, j'ai deux choses quand même à signaler en passant. C'est que la première, c'est que parfois, il faut savoir lire la Bible. Ça ne peut pas se lire, disons, comme un roman. Il faut que ça implique. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce qui me touche? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je ne suis pas comme ça? Est-ce que je comprends? Et ainsi de suite. Sinon, lire la Bible, ça ne peut pas te servir. Et la deuxième chose, c'est dommage que ce soit aussi immense, peut-être. C'est vrai que c'est l'œuvre de Dieu. Enfin, bon, ça peut décourager beaucoup de personnes. Et puis, le vocabulaire, je l'ai dit, j'y reviens.
Que le vocabulaire biblique...
Oui, très difficile.
Est difficile, compliqué.
C'est peut-être pas le vocabulaire, mais c'est l'expression des phrases. Et le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, c'est le Seigneur a dit. Et bon, je sais que c'est... C'est un style oriental aussi, mais c'est très difficile peut-être pour l'Européen, l'Occidental, justement, à lire la Bible. C'est dommage qu'il n'y ait pas des versions, mais évidemment, une version simplifiée pourrait faire perdre aussi des choses. Je le comprends aussi. Mais les difficultés sont là pour le commun des mortels. Ne pas savoir la lire, et s'il est plein de bonne volonté, ne pas prouver que, même si c'est un petit douze tous les jours, ce qui est la meilleure des choses d'ailleurs, c'est difficile.
Je pense que Dieu nous permet aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, d'être nombreux à avoir fait des études. Et je dirais que, je ne sais pas, il y a combien, 80-85% des gens qui ont leur bac
aujourd'hui. C'est ce qui était annoncé.
Voilà, dans les personnes qui ont 20 ans aujourd'hui. Ça veut dire que quand même, 80-85% des gens ont une habitude à la complexité, le programme de maths ou de sciences économie ou de littérature ou de physique en terminale, c'est un programme complexe.
Oui, oui.
Et je pense que ces gens sont tout à fait capables de rentrer dans la complexité du programme, mettons même pas universitaire, du programme de terminale, et ils peuvent rentrer dans la complexité de la parole de Dieu. Mais tout est une question de motivation. Est-ce que je veux écouter Dieu?
Oui, il y a la motivation qui joue. Parce que je crois qu'il y a des gens simples qui n'auraient pas le bac, qui sont capables de la comprendre mieux qu'un professeur d'université. Mais ça, je crois que c'est Dieu qui le permet.